بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors ce soir on va être très concis, on va faire 20 minutes inshallah afin qu'on ait l'occasion de rendre visite à la famille du défunt, le frère qui nous a quittés aujourd'hui. Comme on l'avait expliqué ce matin, c'est vraiment un moment douloureux, un moment difficile pour les personnes qui perdent un proche, que ce soit un papa, un grand-père, un fils, une épouse, un enfant. C'est un moment douloureux, c'est un moment difficile. Et comme on l'avait expliqué pour le Bayan de Jum'a, que dans l'islam, il ne nous a pas été demandé d'oublier les sentiments. Ce n'est pas parce que je suis musulman, j'ai la foi en Allah, je sais que la vie c'est Allah qui donne, la mort c'est Allah qui donne, que lorsqu'il m'arrive ce genre de difficulté, la perte d'un proche qui fait partie des épreuves de ce monde, comme Allah dit au Coran, « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ » etc. Ça fait partie des difficultés, des épreuves de ce monde. Donc si une personne est éprouvée par la perte d'un proche, il n'a pas été demandé de rester ferme, de ne pas pleurer, non. Comme on l'avait expliqué, on a vu que le prophète ﷺ lui-même avait pleuré lors du décès de son fils. Il avait pleuré auprès de la tombe de sa maman. Mais maintenant, après coup, le musulman doit comprendre que c'est la sunnah d'Allah, c'est l'organisation de la société, de la création, pardon, qu'Allah Ta'ala a toujours fait depuis le premier homme jusqu'à la dernière des créatures. Et puis, comme on l'avait expliqué, une personne qui a cette chance de mourir un vendredi ou de mourir un jeudi soir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on a vu les hadiths qui expliquent quelles sont les vertus de mourir un vendredi et comment la famille doit être satisfaite, hein, et c'est un gage inshallah de garantie que cette personne est décédée avec la foi, comme dans des hadiths qu'on avait cités, cette personne meurt avec le cachet de la foi, qu'Allah accepte et qu'Allah fasse que sa tombe soit un jardin du paradis et qu'Allah Ta'ala déverse la sakina, la quiétude, la tranquillité et la conviction dans le cœur des proches, et que les enfants et les petits-enfants de cette personne qui est décédée soient des acteurs pour que ce défunt bénéficie en permanence de bonnes actions. Parce que mes chers frères, même si on ne fait pas tafsir, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'avancer, mais c'est de comprendre conscience de certaines choses. De nos jours, nous en tant que parents, ou alors les jeunes en tant que jeunes et futurs parents. Vous savez, lorsque vous avez des enfants, l'idéal pour un papa ou une maman, c'est que l'enfant ait un jour une situation confortable dans la vie. C'est pour ça que les parents poussent leurs enfants à parfaire leurs études, à faire leurs devoirs, etc., à obtenir leur diplôme. Parce que le papa ou la maman, il sait que si mon fils a son brevet des collèges, s'il a son bac, s'il choisit une bonne filière, il fait des études, il réussit, Inch'Allah, il aura un bon travail. Qui dit bon travail, dit bon salaire. Et qui dit bon salaire, dit respect de la société, dit mariage facile, dit facilité dans toute la vie. Malheureusement, c'est le schéma de la réussite de ce dunya. Donc, pour un papa ou une maman, que son fils devienne médecin, architecte, ingénieur ou autre chose, c'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle récompense que des parents peuvent avoir, que de voir leurs enfants réussir leur vie professionnelle, leur vie familiale, affective et tout et tout. Mais les parents ne prennent pas conscience que cet enfant, certes, sera heureux, il vivra bien, peut-être même qu'il nous aidera à la fin du mois, il donnera une petite monnaie, d'accord? Mais cette aide que l'enfant peut apporter, cette aide se limitera à la vie de ce monde. Même si mon fils est professeur de médecine dans les plus grandes universités à Paris ou à Genève ou je ne sais où, une fois que j'aurai quitté ce dunia, je serai mort. Si mon fils ne pratiquait pas correctement sa religion, ce fils ne me sera d'aucune utilité. Je n'en ai plus besoin. Il ne me servira à rien. Il ne m'apportera strictement rien. Pire, si c'est à cause de mon manque de suivi dans l'éducation que cet enfant a pris un mauvais chemin, je ne l'ai pas habitué à pratiquer sa salah, je ne l'ai pas donné les consignes qu'il fallait pour rester dans l'obéissance d'Allah, cet enfant, le jour de la résurrection, témoignera contre moi. Parce que moi, en tant que papa ou en tant que maman, je n'ai pas accompli mon devoir
Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati. Vous êtes tous des bergers et chaque berger sera interrogé à propos de son troupeau. Alors, par opposition, si des parents ont donné une éducation religieuse correcte à leurs enfants et dès l'enfance, cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille, son cœur est relié à Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a la confiance en Allah, il sait qu'Allah le voit et donc il ne désobéira pas à Allah, il ne fera pas de péché. Donc le prophète alayhi salatu wa salam explique que lorsqu'une personne meurt, il n'y a plus de bonne action pour cette personne. À l'exception de telle chose, entre autres il a cité Sadaqatun Jariya, une action qui est perpétuée, etc. Ou entre autres un enfant pieux qui priera pour ses parents, qui fera doua pour ses parents. Ceux qui bénéficient, ceux qui apportent quelque chose aux défunts, ce sont des enfants pieux. Pas des enfants hyper diplômés, hyper riches ou respectés, des enfants pieux qui ont une pratique correcte de la religion. Ces enfants-là, ils seront jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort eux-mêmes, des sources de bénédiction, de récompense permanente pour ses parents qui sont décédés. C'est ça le plus important. Quand je quitte le dunya, j'ai rempli mon devoir envers Allah, concernant les droits d'Allah, mais également concernant mes enfants, que ces enfants, ils grandissent dans l'obéissance d'Allah. Cela leur sera profitable et cela me sera profitable. Alors, en deux mots, en dix minutes, il me semble qu'on avait... On n'avait pas fait le dernier verset, le dernier ayat de Wal-Fajri. J'ai l'impression qu'il restait Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Il me semble que la dernière fois, on s'était arrêté à Ya ayatuhan nafsul mutma'inna jusqu'à la fin de ce verset. Donc, on avait vu, si je ne me trompe pas, les trois catégories de personnes, ceux qui sont sirat al-mustaqim, de le droit chemin, c'est-à-dire Ahlul Iman. Il y a ceux qui sont... qui connaissaient la vérité mais qui l'ont cachée, comme certaines communautés avant. Et il y en a ceux qui malheureusement, ils ont de bonnes intentions mais ils sont égarés, ils n'ont pas la vérité. Et on avait précisé que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans beaucoup de domaines, qui font beaucoup de bonnes œuvres, mais comme ils n'ont pas la foi, ces bonnes œuvres leur seront certainement profitables dans ce monde. Allah les honorera dans ce monde. Mais le jour de la résurrection, tout ce qu'ils ont pu faire, même parfois on voit des acteurs ou des actrices, hein, ils vont en Afrique, ils vont construire des hôpitaux, ils construisent des puits, des écoles et tout. Tout ça, ce sont des sources de récompense, mais pour celui qui a iman. Parce que sans iman, les actes vertueux n'ont aucun intérêt. Et c'est ça, et c'est là entre autres qu'on voit quel ni'mat, quel bienfait, c'est le kalima la ilaha illallah. Vous avez la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah dans votre cœur, c'est comme si que votre compte en banque est ouvert. Supposez que j'ai un chèque d'un million de francs, je vais déposer à une banque, je dis voilà un million de francs, mais je n'ai pas de compte. Je peux cumuler les chèques, les virements, mettre couler des enveloppes dans l'urne, mais je n'ai pas ouvert de compte là-bas. Il n'y a strictement aucun intérêt. Tandis que si j'ai le compte ouvert, même si je mets 100 euros par mois, ben ces 100 euros resteront dans mon compte. Ce compte ouvert, on peut comparer ça à la foi. Quelqu'un a iman, les actions lui seront profitables. Autrement, sans iman, en aucun cas, on ne doit penser qu'une personne qui meurt, qui quitte ce monde sans la foi, sans le iman, la croyance en Allah et au prophète alayhi salam, et qu'elle a fait beaucoup de bonnes choses, on n'a même pas le droit d'espérer que cette personne ira au paradis. On n'a pas le droit à ça. Comme ça s'est passé il y a quelques années, il y avait un homme très connu dans beaucoup de pays, peut-être mondialement, cette personne est décédée et certains se sont avancés à dire que non, tout ce qu'il a fait pour les pauvres, pour les SDF, etc., assurément qu'il aura quelque chose. Non. Sauf s'il a lu qu'Aléman va mourir. Et ça, j'espère. Ça, on ne sait pas. Mais si on, à l'état actuel, quelqu'un qui quitte ce bas monde, même avec des montagnes de bonnes actions, s'il n'y a pas iman, ces actions-là ne lui seront pas profitables. Donc Allah Ta'ala dit à la fin, Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dans ce dernier verset de Wal-Fajr, Allah Ta'ala donc dit à ses serviteurs d'entrer donc dans le paradis avec ses serviteurs, c'est-à-dire avec ses pieux serviteurs. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. C'est-à-dire que le mu'min, inshallah, nous tous dans le paradis, nous serons en compagnie des gens vertueux. C'est pour ça que nous devons toujours demander droit à Allah, accordez-nous le Firdaus, le plus haut degré du paradis, avec les prophètes, avec les sahaba, avec les siddiqin, les shuhada, les salihin, les gens pieux. C'est la plus belle des compagnies, c'est le plus grand honneur. L'honneur, ce n'est pas d'être dans ce monde avec hein, les stars, avec les gens, les VIP, ça, ça n'apporte strictement rien. L'honneur, c'est quoi? C'est d'être le jour de Qiyamah. Vous, dans le Jannat, vous avez Umar ibn al-Khattab, vous avez Sa'd ibn Abi Waqqas, vous avez Abdullah ibn Mas'ud, des compagnons qui sont dans le même paradis que vous. Vous vivez avec ces gens dans le Jannat. Ça, c'est la plus grande consécration pour un musulman. Et lorsqu'Allah Ta'ala dit Wadkhuli Jannati, et entrez dans mon paradis, entre et entre dans mon paradis, les Mufassirs disent que lorsqu'Allah Ta'ala dit mon paradis Jannati, c'est-à-dire qu'en arabe, il y a le ya, on appelle ça, c'est quelque chose pour le idaf, pour s'approprier. C'est-à-dire, Allah Ta'ala dit mon paradis. Pourquoi Allah Ta'ala dit mon paradis? C'est pour que l'être humain comprenne bien que ce paradis-là, cela, il appartient à Allah, et ce paradis-là, c'est quelque chose de vraiment spécifique, qui est différent de tout ce qu'Allah Ta'ala a déjà créé. Rien à voir avec ce bas monde, avec tout ce qu'on peut contempler de magnifique. Le paradis, c'est quelque chose qui a été créé spécifiquement, spécialement pour Allah, pour les gens qu'Allah Ta'ala aime. Et comme Allah dit le Coran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Personne ne peut imaginer qu'est-ce qu'il y a de le paradis comme bienfait, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille jamais entendu, et aucun cœur n'a jamais imaginé. C'est quelque chose d'exceptionnel, tout comme on avait déjà vu des versets qui expliquent comment Allah Ta'ala il peut sévir et punir de l'enfer, des punitions qu'aucun être humain ne peut imaginer. Pareil pour les bienfaits, les délices du paradis, mes chers frères, ce qu'Allah Ta'ala réserve aux mu'mines, cela dépasse l'entendement, cela dépasse ce que nous pouvons imaginer. Et c'est important de temps en temps de rappeler quels sont les bienfaits du paradis. Parce que ce bas monde est une prison pour le croyant. Ad-dunya, c'est une lil mu'min, wa jannatul lil kafir, et un paradis pour celui qui n'a pas la foi. Donc nous vivons des frustrations dans ce monde. On veut faire des choses, c'est haram, ne le fait pas. Il y a des gens qui on voit, ils vivent comme des rois, des princes. Nous, on a des restrictions parce qu'il y a le cercle du haram et on ne peut pas sortir de. On a un cercle, on ne peut pas sortir du périmètre du haram. D'accord? Mais c'est pour ça que de temps en temps, il faut rappeler que dans le paradis, Allah nous a réservé tel bienfait afin qu'on se console et ça nous permet de développer ce qu'on appelle al-ihtisab, l'espoir de rétribution. Il nous dit que non, inquiète pas, mais fais pas ça, moi, mamie mange pas ça, ça les haram, ben là, il s'en va, il s'en danse, ben là, il s'en fait la fête, il s'amuse, etc. Pour eux, c'est un paradis. Moi, je fais pas tout ça. Mais je sais que là-haut, Allah me récompensera. Imaginez un lycéen, nous encore, hein, moi j'ai 30 ans, un noir a 70 ans, 50 ans, 40 ans, etc. etc. Ben, nous, on ne pense plus à ces délices, à ces plaisirs-là. Mais je suis un lycéen, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans. Samedi soir, tous mes amis, ils vont aux Azab, ils vont au Safari, ils vont à je ne sais pas quelle discothèque. Ils disent que viens, allez, on va à la discothèque, on va boire, on va s'amuser, il y aura des filles, on va passer une bonne soirée et on rentre le matin. Ils s'amusent et nous, on rentre à la maison. Avec papa et maman, parfois c'est papa et maman, mais au pire des camps, on va regarder un match à la télé et tout, et on se dit, t'es là, n'aurais pu être avec mes camarades, m'éclater, m'amuser, etc., etc. Mais il y a une frustration, c'est clair. Je me sens lésé. J'ai l'impression que eux, ils s'amusent, moi, je ne m'amuse pas. Quand on est musulman, ben, on ne rigole pas. Mais je n'ai qu'à me dire que, de toute façon, notre prophète nous a dit, ce monde, c'est un paradis pour eux. Pourquoi un paradis pour eux? Parce que c'est le paradis, Al-An, maintenant. Et après ça, il n'y a plus rien pour eux. Moi, je patiente, j'y vais pas, mais je sais qu'Allah il me réserve quelque chose d'énorme. Surtout quand on est jeune, plus on est jeune, plus on a de tentations, plus il est difficile de résister aux tentations, plus la récompense sera grande le jour de Qiyamah. Donc je n'ai qu'à me dire que dans le paradis, Allah m'accordera telle et telle chose. C'est pour ça que de temps en temps, il faut expliquer, on aura l'occasion dans Suratul Rashiya, la semaine prochaine, Inch'Allah, d'expliquer comment, avec précision, hein, de le surat suivant, comment est organisé le paradis avec les coussins, les tapis, les tentes, etc., etc. Ça, c'est important pour encourager le musulman. Et on terminera par ce hadith, hein, le sahaba demande au prophète d'Allah, montre-moi une action qui me fera accéder au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Le prophète m'a dit, et le hadith est un peu long, on résume, parce qu'on dit que c'est simple pour les personnes pour lesquelles Allah a rendu facile. Tu adores Allah, tu ne fais pas le shirk. Ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakat. Tu fais ta salat et tu donnes ta zakat. Celui qui amène les cinq piliers, Mais il y a les hadiths complètes après concernant la foi, qu'est-ce qui fait accéder au paradis. C'est comme un puzzle, genre, qu'il faut compléter. Déjà, quand on dit d'adorer Allah, c'est au sens profond de la soumission. J'adore Allah, je suis soumis à Allah. Ce qu'Allah me demande de faire, je fais. Et quand Allah me dit de ne pas faire, je ne le fais pas. Ça, c'est vraiment celui qui a iman dans son cœur. Et avec cela, bien sûr, rester éloigné de tout ce qu'Allah Ta'ala a rendu haram. Donc, la recette pour accéder au paradis, cela passe par deux choses. Avec l'iman, bien sûr, l'accomplissement des bonnes actions et l'éloignement de ce qui est interdit. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Même si je ne fais pas zina, je ne vole pas, je ne mange pas de l'intérêt, etc., etc. Mais si par derrière je ne fais pas mon namaz, mais ça ne m'apportera rien. Si de l'autre côté, je fais hajj, je fais umrah tous les ramadan, je lis Coran, etc., je fais namaz, etc., etc., mais je fais zina, quand je trouve une femme trop belle, j'arrive à draguer cette femme, et si je peux faire zina, je fais. L'argent facile, je signe, n'importe quoi, je suis capable de faire, je ne respecte pas mes parents. Dans ce cas, ces bonnes actions ne me feront pas avancer. Comme on l'a dit l'autre fois, j'avance d'un pas et je recule d'un pas. D'accord? La solution, c'est quoi? Les bonnes actions et l'éloignement de ce qui est haram. Et pour nous éprouver les opposants, ça a l'air simple le schéma qu'on a dit, mais les opposants à notre accès, à notre entrée au paradis, ben ils sont au nombre de deux, Shaitan et le Nafs. Et tous les deux ont été créés et programmés par Allah pour nous éprouver. Vous savez, si Allah Ta'ala il voulait que Shaitan meure, ben à la seconde Shaitan serait mort. Il serait brûlé tous les shayatines. Et on serait tous de pieux serviteurs d'Allah, on passerait nos vies dans la masjid en faisant de la sijida. Mais Allah n'a pas besoin de l'ibad, ça qu'il faut bien qu'on comprenne. Allah n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Tout comme ce que Shaitan y fait, même si Shaitan entraîne une île tout entière vers l'adoration des pierres, cela ne diminue en rien le pouvoir d'Allah. Cela n'est pas préjudiciable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ta'ala a créé Shaitan dans le but d'éprouver l'homme. Qui sait qui écoute Shaitan, ses waswasa, ses insufflations, et qui sait résister à ses insufflations et suivre l'ordre d'Allah. Et la deuxième chose, c'est an-nafs. Inna an-nafs la ammaratum bis-su'. Le nafs, pour qu'Allah yirham, le nafs, il tend vers le mal. Les shahawat, les passions, les pulsions, les instincts qui nous poussent vers le haram, celui qui sait contrôler tout ça pour Allah, c'est un véritable mu'min. Car la taqwa, c'est quoi? C'est de mettre un hijab, une séparation entre nous et la colère d'Allah. C'est-à-dire, je ne fais rien qui provoque la colère d'Allah. Et qu'est-ce qui provoque la colère d'Allah? Quand je ne fais pas ce qu'il m'a demandé, et quand je fais ce qu'il a rendu haram. Donc si j'ai compris les deux bases pour avoir la taqwa, ben j'ai tout compris de mon dîme. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous donne la possibilité de mettre en pratique tout ce qu'on a dit dans Walafajri, de prendre en considération les mises en garde contre les azabs du akhirah, comme on l'a vu dans Walafajri, et de travailler et de faire les efforts pour accéder à ce paradis, et que Allah Ta'ala nous donne cette bonne nouvelle, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, que nous ayons des âmes apaisées, comme cité de l'ayat, hein, et qu'Allah nous donne cette bonne nouvelle, udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakum khair.